Radio Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, environ 55 000 réfugiés du Soudan du Sud installés dans les différents sites en Ituri et dans les Hauts-Ouélés sont pris en charge depuis environ 8 ans par les humanitaires. Ces chiffres sont publiés ce jeudi à Bounia par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR à l'occasion de leur journée mondiale célébrée le 20 juin. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va inaugurer tout à l'heure les matériels et engins destinés au service national à Lubumbashi. C'est pour permettre à ces services d'évacuer ces produits vers les grands centres de consommation de la RDC. L'invité de ce journal est Jimmy Kigoma, coordinateur du Bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales en RDC. Il revient sur les conséquences des discours de haine, de la désinformation et les intox dans les communautés et propose des solutions pour lutter contre ces phénomènes. Bonjour à toutes et à tous. À Ituri, environ 55 000 réfugiés du Soudan du Sud installés dans les différents sites et dans les Hauts-Ouélés sont pris en charge depuis environ 8 ans par les humanitaires. Ces chiffres sont publiés ce jeudi à Bounia par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR à l'occasion de leur journée mondiale. La plupart de ces réfugiés se sont intégrés dans les communautés locales et exercent des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation avec l'appui du gouvernement. Isaac Remoyope.
C'est depuis 2016 qu'un afflux des réfugiés du Soudan du Sud est observé dans les territoires d'Arou et de Dungu suite aux conflits armés dans leur pays d'origine. Ils sont arrivés par plusieurs vagues et se sont installés dans des familles d'accueil avant d'être relocalisés dans les sites de Biringi à 60 km d'Arou Centre et de Bélé et Méri dans la province voisine du Haut-Ouélé. Les ACR avec d'autres humanitaires assurent actuellement la prise en charge holistique de 55 000 réfugiés du Soudan du Sud dont environ 10 000 sont en dehors des sites. Il s'agit de construction des abris, la construction ou la réhabilitation des écoles, des structures sanitaires, des puits d'eau aménagés, des latrines, mais aussi la distribution des vivres et des articles ménagers essentiels, l'appui en médicaments aux structures sanitaires locales, les paiements des frais pour les élèves et étudiants qui bénéficient aussi des fournitures scolaires. Ces interventions ont permis d'améliorer sensiblement les conditions de vie de ces réfugiés, précise les ACR. Cependant, certains défis restent à relever faute de moyens suffisants, ajoute la même source. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, l'enveloppe d'aide de l'Union européenne va passer des 100 à 135 millions d'euros cette année, soit 35% de plus que l'année dernière. Ceci au regard du nombre toujours croissant de déplacés internes de suite des hostilités armées dans la partie orientale du pays. Cependant, une certaine opinion trouve paradoxale la position de l'Union européenne. Elle signe un protocole avec les Rwandais sur les matières premières critiques de la RDC au moment où le Rwanda vient en appui aux rebelles du M23 accusés d'exactions sur les populations civiles dans la province du Nord Kivu. D'autre part, elle plaide pour plus d'aide en faveur des victimes de la guerre. Écoutons la réaction du commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion des crises, Janez Lenarsik, est au micro de Chris Mukand.
L'Union européenne a été très claire en ce qui concerne l'engagement du Rwanda que nous trouvons inacceptable. Je voudrais rappeler la déclaration de l'Union européenne de 4 mars dernier. L'Union européenne a alors condamné le soutien du Rwanda au M23. L'Union européenne a exhorté vivement le Rwanda à retirer l'ensemble de son personnel militaire de la RDC, ainsi qu'à mettre fin à tout le soutien qu'il apporte au M23. La signature du protocole d'accord sur les matières premières critiques, je voudrais rappeler que l'Union européenne a signé un tel protocole d'accord avec la République démocratique du Congo en octobre dernier déjà. Et tous ces accords ont pour l'objectif d'augmenter la transparence et la traçabilité des matières premières critiques et de lutter contre le trafic illicite. Nous partageons avec la République démocratique du Congo cet objectif.
Nord Kivu toujours, le président du site des déplacés des Kinyaruchinya dans les territoires de Nyiragongo alerte sur les cas de décès récurrents des déplacés. Décès dus, selon lui, à la mauvaise prise en charge des déplacés malades au centre de santé des Kinyaruchinya. Selon Théo Moussekoura, 4 déplacés de ces sites sont décédés dans leurs abris en l'espace d'un mois faute des médicaments. Il en appelle à l'intervention des humanitaires. Théo Moussekoura décrit la situation au micro de Denise Lukeso.
Le problème est qu'au centre de santé de Kanyaruchinya, où sont prises en charge les déplacés, une fois que les déplacés arrivent sur place, les infirmiers et l'IT les retournent. Ils leur disent de rentrer le lendemain, il n'y a pas de médicaments. Et quand ils rentrent dans leurs abris de fortune, c'est la mort qui les surprend. Dimanche, il y a eu un malade qui a été retourné. On lui a dit le médecin n'est pas là. Arrivé à l'hôpital Virunga après traitement, dommage, il est décédé. Le corps est à la morgue et on nous exige de payer 250 francs pour retirer les cadavres, l'argent que nous ne disposons pas. Actuellement, dans les camps de déplacés des Kanyaruchinya, nous ne savons où nous faire soigner alors que l'unique centre qui nous prenait en charge, c'est le centre de santé des Kanyaruchinya où l'on nous refuse accès. C'est pourquoi je plaide auprès des humanitaires et du gouvernement congolais de nous aider, sinon nous serons exterminés avec différentes maladies.
En réaction, l'infirmier titulaire du centre de santé de Kanyaruchinya dit n'avoir pas enregistré de rupture en médicaments. Il ajoute que le centre reçoit l'appui en soins de santé primaire de MSF Belgique et du bureau central de la zone de santé de Nyiragongo. Au sud Kivu, remise officielle ce mercredi 19 juin du projet de réhabilitation de l'école de police Jules Moke dans la commune de Bagira, ville de Bukavu. Projet mis en place grâce à l'appui financier de la MONUSCO à travers sa section UNPOL, police des Nations Unies. Objectif, renforcer les capacités institutionnelles de la police nationale congolaise à travers les infrastructures afin d'améliorer les conditions de travail au centre d'école Jules Moke. Rachel Kiesembangu, reportage.
Il s'agit de la construction d'un bâtiment de 5 bureaux, la réhabilitation de la clinique médicale de l'école de police Jules Moke et son équipement, la réhabilitation des salles de cours, des toilettes, de la cuisine, des escaliers, du dépôt et du réfectoire. Ce projet était financé à hauteur de 97 812 dollars par la MONUSCO à travers UNPOL. Le colonel Dr Alain Matombe, médecin provincial de la PNC Sud Kivu, revient sur ces équipements reçus.
C'est la remise officielle de ces bâtiments avec les équipements dont un lit opératoire moderne, 5 lits modernes avec matelas y compris, un automate d'examen hématologique, un appareil d'échographie portatif, il y a les kits de césarienne et les kits de laparotomie avec aussi des tensiomètres électroniques et un bon lot de médicaments. Et le besoin de santé, c'est un besoin réel. Donc à chaque fois qu'il y aura un apprenant ou un membre de la population environnante qui serait malade, inutile de les amener ailleurs. C'est ici même au sein de l'école qu'on va administrer les soins à ces policiers, aussi à la population environnante de Kangel Moké.
Rappelons que le lancement de ce projet a eu lieu en janvier 2024, et ce, dans le cadre du retrait de la MONUSCO du Sud Kivu Bukavu. Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Lancement ce jeudi à Lubumbashi des trains du service national par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui est arrivé dans la capitale du cuivre ce mercredi dans la soirée. L'objectif est de permettre au service national d'évacuer ses produits vers les grands centres de consommation de la RDC. Quelle est l'ambiance qui règne sur place? Reportage de Jean Ganduka Bongo.
La cérémonie a lieu à la place de la gare de la SNCC. Les membres de l'Union Sacrée sont présents, arborant les drapeaux de leurs partis politiques respectifs sous les rythmes de la fanfare de la SNCC et celle de la GECAMINE. Les sources proches de la SNCC indiquent qu'au cours de cette cérémonie, il sera question pour le président de la République d'inaugurer les matériels et engins destinés au service national. C'est entre autres les locomotives, les wagons, les tracteurs, les camions, bennes et autres. Ces matériels vont servir au service national pour les transports, notamment de biens qui seront produits par les jeunes bâtisseurs qui sont enrôlés au sein de ces services. A noter que sont aussi présents les jeunes bâtisseurs qui reviennent de l'Afrique du Sud où ils ont appris le métier de machiniste. Pour la SNCC, il s'agit d'une stratégie commerciale qui consiste à donner aux entreprises qui ont leur propre locomotive de rouler sur son réseau ferroviaire moyennant des compensations. De la Grand Place de la Poste à Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, depuis l'effondrement du pont Lubi à Kenankuna dans les territoires de Kabeakamwanga, les habitants de cette cité ainsi que d'autres usagers de cette route traversent la rivière Lubi par pirogue pour se rendre d'un point à un autre. Cependant, cette traversée est jonchée de plusieurs difficultés parce que tous les usagers de la route sont obligés de payer certains frais aux piroguiers ainsi que pour leurs marchandises. Des explications avec Esther Ndalafina qui revient des Kabeakamwanga.
De part et d'autre de chaque rive, devant les pirogues, ce sont des discussions qui se font entre les piroguiers et les usagers de la route. Les discussions tournent autour des frais à payer pour le transport des biens et des personnes. Pour éviter des longues discussions, le comité des circonstances a fixé certains frais pour les personnes et leurs marchandises. Faustin Makanda.
Les propriétaires de la moto payent 6 000 francs congolais. Une personne physique, 500 francs. Et on fait payer 2 500 francs pour les vélos et 2 000 francs si la personne négocie.
Ces tarifs ne sont pas appréciés par les usagers de la route. Vicky Choni s'exprime.
On nous demande beaucoup d'argent par les pirogués. Ça nous empêche de faire des économies pour nourrir la famille.
Pour mettre fin à ces difficultés, Lukusamu Babinga, usager de la route, demande la réhabilitation rapide du pont.
Nous souffrons. L'argent ne circule pas. Que le gouvernement s'implique pour remplacer les ponts pour nous faciliter la traversée et les déplacements.
Signalons que les élèves, les fonctionnaires, les cultivateurs ainsi que les agents de l'ordre sont exemptés des frais à la traversée sur ordre de l'administrateur des territoires de Kabeakamwanga ad interim. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Au Congo central, le manque d'électricité depuis toujours dans les territoires de Luozi accentue la pauvreté et les difficultés de la population de ces coins du pays. Dans une déclaration faite à la presse ce jeudi, Eugène Kanzatonda, le chargé de communication de la société civile de Luozi, appelle les décideurs à pencher sur cette question et souhaite que ces territoires ne puissent pas être laissés pour compte pendant ce quinquennat de Félix Tshisekedi. Cette structure regrette que 5 millions de dollars américain débloqué lors du projet 100 jours du chef de l'État pour l'électrification de Luozi avait pris une destination inconnue. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Le territoire de Luozi n'a jamais été électrifié depuis son existence. Ceci compromet son envol et appauvrit sa communauté. Eugène Kanzatonda, chargé des communications de la société civile du territoire de Luozi, qui l'affirme, explique pourquoi Luozi a un besoin urgent du courant électrique.
Luozi produit actuellement les riz appelés Rinkundi, mais la population n'en bénéficie pas. Pour cause, la décortication de ces riz se fait à Kimpese et même la mise en sac. Et deuxièmement, c'est à Luozi où l'on retrouve Serpel qui produit jusqu'à ce jour les médicaments comme Manadia, Manacovid, mais également aussi Benifood qui produit Vobilar et le vin Vanakiese. Mais par manque d'électricité, la finition se fait à Kinshasa.
Selon ces derniers, l'électrification de Luozi a été retenue dans le projet 100 jours initié au premier mandat de l'actuel chef de l'État. D'ailleurs, une somme de 5 millions de dollars avait été débloquée pour la réalisation du dit projet. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait et aucun signal n'a été donné sur terrain. Dans leur déclaration, la coordination de la société civile du territoire de Luozi félicite le gouverneur élu du Congo central Grace Nkwanga Bilolo et lui rappelle qu'il n'est pas le chef d'une seule contrée. Par contre, tous les 10 territoires du Congo central doivent bénéficier de sa présence à la tête de la province. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, les syndicats des enseignants du Congo, SIECO, du territoire de Massimanimba, réclament la réactivation des salaires d'environ 135 agents du service de contrôle et paye des enseignants SECOP de la province éducationnelle Kwilu 2 qui ont été désactivés du fichier des payes depuis juillet 2021. Dans un entretien ce lundi avec Radio Kapi, son secrétaire Apollinaire Kilesila sollicite l'implication de la ministre nationale de l'EPST et du président de la République afin que ces agents qui continuent de travailler soient rétablis dans leurs droits. Il s'est confié à Irène Mbomaluzolo.
Par cette occasion, la SIECO Massimanimba réclame la réactivation des 135 agents de la Dinakope Kwilu 2 qui étaient désactivés sans procédure administrative disciplinaire depuis le mois de juillet 2021. Je sollicite l'implication personnelle de l'excellence Madame la ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté d'ordonner le service de Dinacopé national de réactiver les concernés sans une autre forme de procès et le rétablir dans leurs droits. Pourtant, porteur des actes juridiques authentiques. C'est aberrant, Madame la ministre, de constater les agents payés pendant une décennie, pères de famille, se réveillent un bon matin privés de leurs droits. C'est une mauvaise pratique qui ne cadre pas avec la vision des chefs de l'État.
De même, les collectifs des inspecteurs contrôleurs du travail et agents administratifs demandent à la première ministre et chef du gouvernement d'exécuter les instructions du président de la République concernant le paiement de leurs primes et salaires allant du mois d'octobre 2023 à ce jour. Ces inspecteurs ont organisé hier mercredi une marche qui s'est terminée par un sit-in d'abord devant l'hôtel du gouvernement, immeuble intelligent, puis à la primature où ils ont lu leur mémorandum adressé à la première ministre. Dans ses mémos, il rappelle les instructions faites par le chef de l'État au ministre des Finances et du Budget sous l'autorité du premier ministre honoraire lors du 131e Conseil de ministres au mois de mars dernier de traiter en urgence cette question. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. C'est dans l'ambiance des bruits, des sifflets que les porte-parole des inspecteurs du travail résument leurs revendications. Gloire Ouattipa est au micro de Jeff Ngoy.
Excellence Madame la Première Ministre, les instructions formelles de la plus haute hiérarchie du pays sont délibérément bafouées par certains membres de votre gouvernement animés d'une mauvaise foi et qui visent sournoisement à faire échouer la vision du chef de l'État et par ricochet celle du gouvernement, celle du peuple d'abord, de la promotion de la jeunesse ainsi que la création des emplois. Constatant une stagnation du processus pour notre prise en charge effective malgré les instructions du chef de l'État et connaissant que vous aviez été choisi par les présidents de la République afin de faire la continuité de notre situation et que vous êtes actuellement la pilote de notre engagement et de toute cette réforme. Nous vous saisissons pour nous venir au secours pour que notre prise en charge soit effective ce mois de juin 2024. Votre implication personnelle est urgente dans ces dossiers, conformément à l'esprit des instructions du président de la République lors du 131e Conseil des ministres, et un remède et un soulagement pour la charge de nos malheurs. En le faisant, vous donnerez l'honneur et la dignité de notre beau pays.
Actualité internationale. Sommet de la vaccination, ballet diplomatique à l'Élysée avec deux chefs d'État africains. Le président français Emmanuel Macron sera présent lors de l'ouverture du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale co-organisé avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. Mais plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau sont programmées en marge de ces sommets.
L'invité.
Les discours de haine, la désinformation et les intox sont les mots qui enflamment les conflits dans nos communautés. C'est le coordonnateur du Bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales en RDC, Béaric, qui l'a dit ce mardi 18 juin 2024 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les discours de haine célébrée le 18 juin de chaque année. Qu'entend-on par discours de haine? Quelles en sont les conséquences? Pour répondre à ces questions, nous recevons un invité, Jimmy Kigoma, coordonnateur des BRIC. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Jimmy Kioma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi une journée pour lutter contre les discours de haine? Mais d'abord, qu'attend-on par les discours de haine?
En fait, nous avons découvert que les messages de haine, la discrimination, la désinformation, les intox contre les ex-combattants, y compris les activités qu'ils mènent dans la communauté, est devenue une monnaie courante, mais une plus grande entrave contre leur insertion active au sein de la communauté. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu qu'à l'occasion de cette journée, nous puissions sensibiliser tous les membres de la communauté, la population à part entière de Béni, de cesser avec ce message de haine, à la contre, en particulier contre les ex-combattants. Mais on s'est rendu compte à travers ce dialogue que le plus grand tremplin pour la réinsertion des ex-combattants, c'est d'abord la communauté. Si la communauté arrive à accueillir les premiers ex-combattants qui se donnent volontaires à retourner de la communauté, en tout cas, et aussi si la communauté ouvre le cœur à ces ex-combattants, à leur tour, ils vont sensibiliser ceux qui traînent le pas. Au taquet, lorsqu'il y a un problème, comme nous l'avons dit, des discours et des haines contre ceux qui se sont donnés volontairement de venir bien avant, ceux qui sont encore là-bas sont au courant de ce qui se passe et traînent les pas de venir. On sait qu'un membre des groupes armés qui quitte et groupes armés, on a un problème de défi, la prolifération d'armes légères, la circulation d'armes. C'est un élément de nuisance de moins contre la communauté, surtout la nôtre, telle que vous la connaissez, où la prolifération d'armes légères et des groupes armés crée vraiment une ambiguïté à ce qui concerne la prolifération des conflits et la paix, tout comme le développement. Ça étouffe non seulement la paix, mais également le développement de notre entité.
Et quelles sont, selon vous, les conséquences des discours de haine dans une communauté?
Oui, ça impacte non seulement, comme nous l'avons dit, si les ex-combattants, alors qu'on sait bien que le processus de démobilisation, c'est un programme du gouvernement appuyé et soutenu par le gouvernement congolais à travers la présidence, à travers, comme je l'ai dit, en particulier les PDDRCS. Donc c'est une approche déjà connue qui est là pour sensibiliser davantage les membres des groupes armés à quitter les groupes armés. Et lorsqu'ils arrivent dans la communauté, ces entraves impactent davantage sur ces processus de réinsertion. Voilà pourquoi il est important, en tant qu'organisation de résolution des conflits de peace building, que nous puissions lancer et hausser ton au plus haut niveau pour que les membres de la communauté adhèrent à ces processus de réinsertion des ex-combattants, à les accueillir, à les faciliter de s'intégrer au sein de la communauté.
Dernière question, comment lutter contre ce fléau? Qu'attendez-vous des communautés en ces jours où le monde entier attire l'attention des peuples sur les dangers de ce phénomène?
C'est simple, dès qu'un membre, un ex-combattant, un membre du groupe armé vient d'adhérer au processus, devient ex-combattant après avoir obtenu tous les papiers et les autorisations à travers les services publics et le gouvernement congolais représenté par le PDDRCS, il est important qu'on leur ouvre le cœur, qu'on les accueille, qu'on les remonte, parce qu'ils sont partis, certains sont partis il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, voire. Quand ils reviennent, il faut leur montrer les pistes du vécu quotidien au sein de la communauté. Il y a ceux-là qui ouvrent même des activités, mais leur père qui exerce ce genre d'activité, il les stigmatise. N'allez pas acheter les produits chez ce monsieur-là parce qu'il a été. Mais on s'est rendu compte qu'il y a même d'autres qui font hausser même les prix des maisons pour des ex-combattants qui cherchent des maisons, des locations. Et tout ça sont des entraves qu'il faut bannir au sein de la communauté. Et dès lors qu'ils acceptent de revenir au sein de la communauté, il faut les reconsidérer comme des membres de la communauté. Mais aussi un message particulier à eux aussi de se considérer en adhérant au sein de la communauté comme des membres entiers de la communauté. Et des civils de surcroît qui sont vraiment des civils et non des membres actifs des groupes armés.
Jimmy, Guillaume, merci.
C'est nous qui vous remercions.
Et c'est la fin de ce journal des midis sur Radio Kapi, mis en onde par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa, supervisé et coordonné par Martin Sebujangwe et Blaise Shindani Kambala. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.